le paysan, il a un statut, en quelque sorte, de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse finalement mourir.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout s'accaparer, donc on va laisser la place.
Un paysan, son but, c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Des gens qui se déclarent paysans la tête haute.
Ce soir, sur les ondes de Radio Canut, dans l'émission Les paysannes et les paysans dans la lutte des classes, on vous propose d'écouter un entretien croisé sur deux types de stratégies qui sont à l'œuvre en Amérique latine, de la part des communautés paysannes et indigènes, pour récupérer des terres, et par là même restructurer un mode de vie communautaire et de fait une existence politique. Il s'agit donc, d'un côté, de l'expérience du mouvement des sans-terres de Bolivie, qui nous est décrite au travers du récit de Thomas Siron, qui prépare une thèse d'anthropo sur le sujet. Et d'un autre côté, d'expériences de récupération de terres au Mexique sous l'influence du mouvement zapatiste. Gonzo et Guadalupe nous racontent aussi une prise de terre dans l'est de l'état de Oaxaca. Deux pays, deux contextes assez différents, mais une seule lutte pour des communautés paysannes et indigènes pour exister. Après de brèves présentations, on écoute pour commencer Thomas nous raconter le contexte social et politique qui a conduit à la création du mouvement des sans-terres de Bolivie.
Et moi, je m'appelle Thomas Siron. J'ai passé donc du temps dans une communauté, un assentamiento du MST bolivien. Donc voilà, mon étude consistait en gros à suivre l'organisation de cet assentamiento qui est né à la suite de l'occupation d'une propriété.
Moi, je m'appelle Gonzo et ça fait à peu près 4 ans que je vis dans le sud du Mexique, à Oaxaca. Et là, ces dernières années, avec un collectif coopératif d'édition éditoriale, et puis aussi pas mal avec un espace, une université populaire qui s'appelle l'Université de la Terre, Unitierra. Et donc, où là-bas, on a pu rencontrer pas mal de gens des villages, connecter pas mal de luttes, et puis surtout les luttes qui sont axées vers l'autonomie, quoi.
Bonjour. Hola a todos y todas. Je suis Guadalupe et je parle de chez moi.
Donc en Bolivie, bon, je commence à parler du mouvement des paysans sans terre, puisqu'il s'est formé spécifiquement pour récupérer des terres. Donc les récupérer des mains de ce qu'on appelle des terratenientes ou des latifundistas, donc des gens qui possèdent des grandes extensions de terres et qui généralement ne les utilisent pas ou peu. Alors en Bolivie, en fait, ces grandes extensions de terre, elles se situent maintenant donc dans la partie basse, des terres basses de la Bolivie. La Bolivie, en gros, il y a deux grandes zones, les parties andines, ou donc de montagne, donc haute montagne et vallée, et les parties basses qui sont le bassin de l'Amazonie vers le nord et le bassin du fleuve Paraguay vers le sud. Et il y a une réforme agraire en Bolivie qui aboutit à une forte redistribution des terres dans la partie montagnarde andine à partir de 1952 avec une loi de réforme agraire en 1953. Et depuis, donc assez vite en fait, les terres que possédaient les hacendados, les grands propriétaires fonciers, ont été redistribuées aux travailleurs de leurs haciendas. Et certaines aussi aux communautés indigènes dites d'origine auxquels les hacendados avaient usurpé ces terres, souvent par des achats forcés, par l'occupation de fêtes, etc. Enfin, surtout à partir de la fin du 19e siècle, il y a eu un processus comme ça d'expansion des haciendas dans les Andes, et beaucoup de communautés libres d'origine sont devenues, ont été englobées dans des haciendas, sont devenues des peones, des hacendados. Donc en 50, après il y a un grand mouvement paysan qui s'est formé, surtout dans les années 30, 40, avec un climat insurrectionnel de plus en plus. Et en 52, il y a une sorte de putsch politique qui est devenue une insurrection populaire et une révolution politique et sociale. Donc s'ensuit une grande réforme agraire, avec beaucoup de redistribution donc de terres dans cette partie andine, l'ouest de la Bolivie. Mais dans l'est, il n'y a pas eu de redistribution de terres, parce que, enfin, ou très peu, parce que en fait, de fait, il y avait assez peu d'haciendas, assez peu de grandes propriétés, et assez peu de gens, en fait. C'était très, très peu peuplé, et les gens n'étaient pas organisés, les paysans locaux n'étaient pas organisés. Donc, il n'y a pas eu vraiment une réforme agraire dans l'Orient bolivien, comme on dit, on dit l'Orient, là-bas. Et se sont maintenues de grandes fermes, et s'en sont créées de nouvelles. Parce que dans tout le courant des années fin 60, 70, les dictateurs qui étaient au pouvoir, parce qu'on est arrivé à un régime dictatorial assez tôt après la Révolution, donc des militaires, distribuaient les terres à leurs amis, leurs alliés politiques, leurs parents, et ils donnaient, en s'appuyant sur la loi de réforme agraire, ils dotaient des terres gratuites, donc des extensions de dizaines de milliers d'hectares, à des parents, des amis, quoi. Donc se sont reconstitués... non seulement se sont conservés des grandes propriétés, mais se sont constitués de nouvelles, de nouveaux latifundios. Donc on parle de néo-latifundios, à l'ombre d'une loi de réforme agraire. Et le gouvernement, donc issu de la Révolution, qui avait redistribué la terre dans l'Occident andin, dans l'Orient, il n'avait pas la pression paysanne pour redistribuer, et il avait au contraire l'intérêt de transformer les quelques haciendas qu'il y avait en exploitation capitaliste, avec l'aide de la coopération américaine. Ils ont mis à disposition donc des patrons, des grands propriétaires, des machines, des bulldozers pour déforester, des sources de crédit, etc. Ils ont fait ensuite des routes, des chemins, toute une infrastructure pour permettre à ces patrons de devenir des entrepreneurs capitalistes. Et donc voilà, il y a ces deux phénomènes-là.
Ça a marché.
Ça a marché, ouais, mais à coup de subventions d'État, voilà, la Bolivie qui vit beaucoup des mines et du pétrole et du gaz et des mines d'étain, d'or, d'argent, toute une richesse de métaux, et qui empruntait beaucoup, bien sûr, à la Banque interaméricaine, à la Banque mondiale. Tous ces crédits et tout cet argent public allaient pour financer la conversion de patrons en entrepreneurs agricoles. Donc c'était, voilà. Avec tous les traités commerciaux, tout ça qui était derrière, qui permettait à ces gens de devenir à peu de frais, on va dire. Même la plupart n'ont pas remboursé ces crédits-là. Donc, tu as beaucoup de transferts de fonds, en fait, qui ont permis la constitution d'un secteur agro-exportateur en Bolivie. D'abord, autour du sucre. Ensuite, il y a eu le coton. Et ensuite, il y a eu le soja. Donc, il y a eu plusieurs cycles comme ça de constitution de ce secteur agro-exportateur. Et depuis les années 80, fin 80, on est dans le soja, et depuis, il s'étend tous les ans par milliers d'hectares pris sur les forêts, quoi, de l'est de la Bolivie. Donc voilà, c'est pour expliquer en gros comment surgit le MST. Il y a un processus de réforme agraire inégal qui se fait à l'ouest et pas à l'est, et il y a une reconstitution à l'est de grandes propriétés du coup capitalistes, plus semi-féodal comme c'était avant, et des paysans andins, qui sont la plus grande partie de la population, qui rapidement n'ont plus assez de terres chez eux, et c'est des terres difficiles à travailler, etc. Et puis avec les changements climatiques, plus en plus de sécheresse, donc il y a eu un phénomène de migration interne fort des Andes vers les terres basses, et c'est ces gens-là qui depuis les années 60, occupent, prennent des terres de l'État ou qui appartiennent à des entrepreneurs mais qui ne les travaillent pas, parce qu'il y a encore beaucoup de terres quand même libres, on va dire. Et donc il y a un phénomène comme ça d'occupation de nouvelles terres par des paysans migrants depuis les années 60, 70, et de fil en aiguille, il y avait plus tant de nouvelles terres non occupées à prendre, et le secteur des exploitants capitalistes et ces migrants paysans sont venus à se choquer, quoi. Et c'est là où a apparu le MST, qui a fait des prises de terres, là pour le coup peut-être plus conflictuelles. Les paysans n'occupaient plus seulement des terres qui n'appartiennent à personne, ou seulement que sur le papier, mais aussi à des gens qui avaient ici des intérêts, soit qui produisaient une partie de ces terres, ou soit qui avaient des intérêts aussi financiers de les louer, de les fractionner à d'autres entrepreneurs, souvent des Brésiliens, dans le cas de Santa Cruz, où c'est avec le phénomène d'expansion du soja, beaucoup de capitaux brésiliens viennent là-bas pour occuper de nouvelles terres. C'est un peu une frontière du soja, en fait, par rapport au Brésil, qui est déjà largement occupé. Donc voilà, il y a eu un choc entre une frontière d'occupation paysanne et cette frontière agricole d'agro-exportation. Donc autour des années 99-2000, ces paysans andins, dont beaucoup donc migrent pour chercher du travail. Ils vivotent comme maçons, comme ouvriers, comme employés agricoles. Et puis, un jour, on apprend que voilà, il y a une terre. Il y a des gens, en fait, souvent, quand on est une base, on apprend qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une terre qu'on peut prendre et il faut s'inscrire. Donc, c'est là où il y a un niveau organisationnel, où des gens ont des informations et ils s'organisent, on va dire, une prise de terre et qui fondent là une nouvelle communauté paysanne, un asentamiento, le fait d'occuper, on dit asentarse. Et très rapidement, on se met en place une organisation sur le mode ce qu'on appelle le syndicat agraire en Bolivie. Le syndicat agraire, en fait, c'est toute une institution là-bas. Ça a été créé avec la réforme agraire. C'est une organisation de paysans qui représente les intérêts des paysans, mais c'est aussi devenu l'organisation de la communauté elle-même. Donc, les dirigeants du syndicat sont des dirigeants communautaires.
Ce que tu dis un peu, c'est que la communauté et le syndicat, c'est un peu la même chose.
Ouais, je crois que c'est un peu peut-être une spécificité du mouvement paysan en Bolivie. Il y a une fusion entre l'aspect, on va dire, lutte des classes, organisation collective de travailleurs paysans et organisation communautaire d'une communauté. Mais après, plusieurs syndicats qui sont proches vont se regrouper et former un village, quoi. Donc tu auras un phénomène un peu de création d'un nouveau village entre plusieurs syndicats. Souvent, c'est ça, c'est une quarantaine de personnes. Alors, pour prendre un exemple, les paysans sans terre chez qui j'étais, qui ont constitué la communauté Tierra Prometida, Terre Promise, donc ça, c'était vers l'an 2000 à peu près, ils habitaient dans un petit village, une sorte de bourg rural, qui avait été créé une trentaine d'années auparavant par des migrants andins aussi, et qui était un regroupement de plusieurs syndicats. Et de fil en aiguille, ces migrants, beaucoup avaient vendu leurs parcelles à d'autres migrants ou à des gens venus de l'extérieur. Les terres se sont concentrées et les gens sont partis. Ou ils sont venus vivre au bourg, ils font d'autres travaux, etc. Donc dans ce village-là, de fil en aiguille, c'est constitué une classe de sans terre, en fait. Soit les enfants des gens qui avaient vendu des terres, soit les enfants des gens qui avaient déjà des terres. La répartition entre frères et sœurs faisait qu'il y avait trop peu de terres pour chacun, ou pas du tout, etc. Ou des gens qui arrivaient dans ce village-là pour chercher du travail. Donc c'est constitué une classe de jeunes sans terre. Et ils ont appris qu'il y avait une terre qui se mettait en vente, une grande propriété de... C'était écrit 23 000 hectares, il y avait des panneaux. Même sur Internet, c'était écrit. Donc, ils sont constitués trois syndicats de 40 membres chacun à peu près. Donc voilà, ça fait la communauté Tierra Prometida, ce serait 120 membres.
Alors on reviendra dans une seconde partie de l'émission sur les luttes du MST bolivien après que Gonzo et Guadalupe nous aient décrit comment, au Mexique, le mouvement zapatiste a su impulser des dynamiques de récupération de terres. Il s'ensuivra la présentation d'une occupation d'un domaine latifundiste par une coordination de villages voisins dans l'est de l'état de Oaxaca.
Et pour parler un peu de mouvement de prise de terre au Mexique, ça me faisait penser qu'en fait le premier gros mouvement quand même, c'était il y a 500 ans, quoi. La colonisation et les Espagnols qui sont arrivés et qui ont vraiment à peu près tout pris. Et ensuite, pour un peu contextualiser le Mexique, quoi. Il y a 200 ans, c'est l'indépendance, et puis il y a 100 ans, c'est la Révolution. Et la Révolution, il y a un peu deux figures, je pense, connues, quoi. Zapata, qui était plutôt dans le sud, et Pancho Villa, qui était plutôt dans le nord. Et Zapata, un peu la phrase qu'il disait, c'était La tierra es de los que la trabajan. Donc la terre appartient à ceux qui la travaillent. Donc sans m'étaler sur la révolution, c'est pour pouvoir dire que, un peu moins d'un siècle plus tard, donc Zapata c'était 1910, il y a un truc qui se passe au Chiapas en 94. On va dire que ça a été un mouvement de récupération des terres. Et en 94, il y a une insurrection et le Chiapas est en. Il y a plein de peuples indigènes qui sont, on pourrait dire, les descendants mayas, qui prennent les armes, qui se disent zapatistes. Ouais. Justement pour reprendre la phrase de Zapata qui dit « la terre appartient à ceux qui la travaillent ». Et donc l'insurrection en 94, elle commence pas pour prendre le pouvoir et mettre un autre pouvoir à la place, mais pour tomber le pouvoir et que quelque chose d'autre puisse naître, quoi. Quelque chose qui vienne d'en bas. À la base, au Chiapas, ceux d'en bas, ils savaient vraiment rien du tout, quoi. C'était une situation, c'était de l'esclavagisme. C'était des peuples qui travaillaient pour rien, pour trois pièces ou des fois pour de l'alcool, qui étaient complètement exploités. Et donc en 94, c'est le fruit de 10 ans d'organisation qui se passe dans la jungle, clandestine, la nuit, dans le silence. Prennent les armes en se disant, le peuple mexicain va suivre, quoi. C'est le moment d'y aller, quoi. 1er janvier 1994, c'est aussi le traité de libre commerce entre les États-Unis et le Mexique. Ils disent là, c'est bon, quoi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est sûr, ça va être le moment où tout le monde va se lever. Au final, la guerre, elle dure 10 jours. Et puis les Mexicains, ils réagissent plutôt en disant on n'a pas envie de cette guerre-là. On n'a pas envie que les indigènes se fassent massacrer par les militaires. Du coup, les zapatistes écoutent quand même ce que dit le peuple mexicain. Donc il y a un cessez-le-feu. En 1996, il y a des accords qui se font entre les zapatistes et le gouvernement. En disant, les zapatistes, ils ont des demandes, quoi. Des demandes, on veut avoir le droit à l'éducation, le droit à avoir des terres, le droit à avoir un toit. Les 13 demandes sont vraiment basiques, quoi. Au final, les demandes, ils demandent juste, on veut qu'on nous reconnaisse comme être humain. On veut qu'on nous reconnaisse comme être humain et qu'on a le droit d'avoir des droits, le droit à la vie, quoi. Quand ils voient que ces accords sont pas respectés, même si le gouvernement les signe, y a rien du tout qui est respecté. Ils font « Ok, il n'y a plus de négociation possible. Le chemin, il ne va pas passer par le pouvoir, il ne va pas passer par les négociations avec ceux d'en haut, il va passer par la construction depuis en bas. » Et donc là, ils retournent sur leur terre. Donc leur terre, c'était quoi ? En 94, ils ont récupéré quand même beaucoup de terres. Par les armes, ça voulait dire que les terres où ils étaient déjà là-dessus, c'était pas des terres qui leur étaient propres, c'était des terres qui appartenaient à des gros propriétaires qui avaient des grosses exploitations. Enfin, donc eux, ils récupèrent ces terres-là, qui sont quand même quelque chose comme 250 000 hectares, un bon bout de terrain, quoi. Et puis ils commencent à construire petit à petit l'autonomie. Moi, je commence un peu à parler du mouvement zapatiste, parce qu'au final, on peut pas dire que il y a un mouvement unique dans tout le Mexique sur la récupération des terres, mais il y en a eu plein, il y a eu plein d'expériences, mais c'est clair que la plus radicale, la plus grande et la plus belle, ça a quand même été, et c'est ce que construisent les zapatistes, quoi. Maintenant, on en est là, cette année, on célèbre les 20 ans du soulèvement, ça fait 30 ans que le mouvement existe, 20 ans du soulèvement, 10 ans des caracoles, et on en arrive à un moment où ce que disent les zapatistes, on veut construire un monde où il y a de la place pour d'autres mondes, on y est, quoi. Ils disent pas qu'ils ont la solution à tout, mais là, il y a un autre monde qui est vraiment tangible, qui existe, qui est là au Chiapas. Tout ça, ça a été possible parce qu'ils ont récupéré les terres avec un mouvement armé qui ensuite est devenu un peu plus invisible, qui sert de sécurité, mais ceux qui construisent l'autonomie zapatiste, c'est les enfants, c'est les adultes, c'est les grands-parents, c'est tout le monde dans le village, quoi. C'est une construction communautaire, desde abajo a la izquierda, en bas à gauche, comme ils le disent, quoi.
Je crois aussi que ça commence avec l'envie de récupérer la liberté et la dignité.
La terre et la liberté.
Et la dignité.
Bon, à Oaxaca, pour parler d'une expérience, non, il y a toujours eu des prises de terre un peu partout dans le Mexique, même dans des contextes urbains. Là, pour parler d'un contexte plus rural à Oaxaca, il y a eu quelque chose qui s'est fait après la Révolution, et pareil, une réforme agraire, et puis rediviser les terres. Ils ont vraiment fait en sorte qu'en divisant les terres, à Oaxaca, on le sent vraiment, vraiment beaucoup ce truc-là, qu'ils ont divisé les terres pour faire des conflits entre tous les villages et entre tous les peuples. Parce que c'est beaucoup de peuples indigènes avec leur propre culture, leur propre langue différente, des Zapotèques, des Mixtèques. Et cette répartition des terres, elle a vraiment été faite pour emmerder le monde et qu'il y ait des conflits pour toujours, quoi. Donc il y a toujours eu une histoire de récupération des terres, mais c'est pas des choses qui se passent toujours très bien, quoi. Il y a des conflits, des fois de village entre village, pour des histoires de frontières, des choses qui sont floues et qui se passent vraiment dans le sang, quoi. Pour parler d'une expérience que nous on a vue, qui a maintenant un an et demi, il y a une organisation donc, qui s'appelle CODEDI, qui regroupe beaucoup, beaucoup de villages, qui est une organisation qui, à la base, combat beaucoup pour avoir des droits. Donc, un peu une lutte au niveau de la légalité, au niveau de dire l'État, il faut qu'il nous reconnaisse comme communauté indigène. Parce que si le village n'a pas le statut de communauté indigène, ça veut dire qu'au niveau de la légalité, il y a plein de choses qui ne lui sont pas accordées. Donc, il y a eu beaucoup de luttes comme ça avec les institutions, des planctons, des marches, pour demander des choses. Il y a un truc qui change un peu quand même il y a un an et demi. Ils ne sont pas insensibles à ce qui se passe au Chiapas. Il y a un moment où ils se rendent compte qu'au fur et à mesure du temps, toutes les luttes qui se mènent à demander à l'État, c'est vraiment très difficile de s'en sortir. Donc ils prennent un peu une autre perspective. Ils s'organisent avec 16 communautés, plus de la région du sud de Oaxaca, donc c'est proche des côtes, dans la Sierra. Et ils vont récupérer des terres d'une finca. Donc une finca qui était une grosse, grosse exploitation, qui s'appelle d'ailleurs la finca Alemania, voisine avec la finca California, voisine avec la finca Argentina. Bon, elles ont toutes des super noms.
Mais c'était parce que les propriétaires, c'était allemand. C'est l'exploitation du café, la finca de café. Voilà.
Où il y a une situation un peu similaire au Chiapas, dans le sens que bon, bah, c'est une sorte d'esclavagisme, quoi. Les gens qui travaillent là-bas, vivent au même endroit, dorment là-bas, ont une vie juste qui est dédiée à l'exploitation, à se faire exploiter, quoi. La finca, elle a été abandonnée depuis 25 ans, et il y avait un peu des intérêts du gouvernement, c'est toute une zone aussi où il y a des activités touristiques, et donc le gouvernement, il est toujours en train d'essayer de récupérer ces terres-là pour aller construire des immeubles à la con, des hôtels énormes et tout ça. C'est aussi une région où il y a énormément, enfin où il y a de l'eau, et de l'eau qui se fait pomper pour les complexes touristiques.
Et pour Coca-Cola.
Donc les villages s'organisent, dans un premier temps, pour pas que le gouvernement récupère ces terres-là, et puis aussi pour les récupérer, parce que ça fait partie, il y a aussi des gens qui participent à récupérer ces terres, qui ont travaillé dans cette finca, qui ont été exploités aussi, quoi. Donc 800 hectares qu'ils prennent comme ça, entre 16 villages. Et puis, une fois qu'ils prennent les terres, ils s'organisent pour qu'il y ait toujours des gens sur place, pour qu'il y ait des barricades, pour assurer un peu la sécurité, et qu'il y a toujours des personnes qui sont là. Les 16 villages, l'objectif, c'est pas on va tous aller vivre dans cette finca. C'est l'idée du projet.
C'était faire une université populaire.
Voilà, faire un endroit où les villages puissent venir apprendre et retourner à leur village et diffuser les techniques, les choses qu'ils vont apprendre dans cet endroit-là, quoi. Du savoir-faire.
L'agriculture, de santé avec des plantes médicinales, des cochons,
des poules, du café, il y a du bambou qui pousse, il y a tout, hein, y a des singes, il y a de l'eau, il y a tout qui pousse. Ouais, il est génial l'endroit. Et en même temps, c'est des gens, même s'ils vivent dans leur village et qu'en théorie, ils disent, bah, c'est des choses qu'ils peuvent déjà faire chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de 800 hectares pour aller faire ça? Encore les problèmes de terre, de caciquets, de quelques personnes qui ont beaucoup de terre. Donc il y a des gens qui, de génération en génération, ils ont toujours vécu du travail de la terre. Et puis maintenant, ils se retrouvent à devoir travailler pour les terres de quelques propriétaires, quoi. Donc ils se disent, là, il y a une opportunité de... Il y a de la terre, il y a de l'espace, il y a tout ce qu'il faut. Travailler les terres. Et puis oui, de faire un centre d'apprentissage. Et ça, du coup, la logique, c'est aussi par rapport à l'éducation, quoi. Par rapport Oaxaca, c'est une région où l'éducation, bon, alors, déjà qu'elle est complètement pourrie dans le monde, qu'elle est encore plus pourrie au Mexique. Ils ont fait en sorte qu'elle soit encore plus pourrie pour les indigènes. C'est un outil de destruction de la culture indigène. C'est à travers de l'éducation qu'on leur dit, il faut que tu parles plus ta langue, il faut que tu arrêtes de travailler la terre. Enfin, ça a été un...
Tu te mets dans le système, s'il te
plaît.
Voilà,
oui. Tu te mets dans le système, s'il te plaît, sinon tu disparais.
On découpe.
Et donc, ça, l'éducation, voilà, ça a participé à détruire un peu la forme de vie des communautés. C'est, tu vois, une région aussi pauvre que la Mixteca, la seule université qui existe dans cette région, c'est une université de robotique. Donc voilà, si par miracle, les jeunes arrivent à finir le lycée et que la famille ait de l'argent pour leur proposer des études, la seule opportunité, ça sera d'aller faire de la robotique. Donc, il y a plein de petites expériences comme ça, d'autres éducations, que ce soit depuis les villages, pour les villages. Ça va aussi un peu dans ce sens-là, quoi. Récupérer les terres pour proposer une autre façon d'apprendre. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ajá. Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo, mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo. Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la Oaxaca, con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta, torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta, torito se ha de quemar. Para que haga su manda, por la pasión de soledad. Para que haga su manda, por la pasión de soledad.
S'écouter la petite recette du cocktail Molito interprétée par Lila Downs. Et revenons maintenant sur l'émergence du mouvement des sans-terres de Bolivie.
J'expliquais un peu avant ce qui s'était passé précédemment, parce que voilà, cette migration des paysans andins qui n'avaient plus de terres, qui étaient devenus des sans-terres vers l'Orient, et qui ont, voilà, s'y sont installés sur des terres dont le statut était public ou privé, mais sans occupation réelle. Après, le MST, lui, il est né donc là, 99-2000, dans le sud, en fait, de la Bolivie, près de la frontière avec l'Argentine. Il est né de l'organisation de prise de terre. Entre, en fait, il y avait des indigènes guaranis et des paysans donc sans terre andins, qui étaient des gens qui travaillaient dans le petit commerce, tout ça. Et il y avait dans cette zone-là, proche de cette ville de Yacuiba, à la frontière argentine, plusieurs grandes propriétés, ou moyennes grandes propriétés, plusieurs milliers d'hectares de toute façon, donc qui étaient presque pas travaillées. Donc c'est là où ils se sont organisés, un peu liés avec l'organisation des Guarani, qui existait déjà, parce que c'est des terres ancestralement Guarani, là-bas, au sud de la Bolivie. Donc voilà, il y a eu cette organisation de prises de terre en fait multiples, je ne sais plus exactement, 5 ou 6 prises de terre entre paysans et indigènes. Paysans, c'est-à-dire c'est ceux qu'on appelait avant les Indiens dans les Andes, qui sont devenus des paysans avec la réforme agraire, donc qui se disent eux-mêmes paysans plus que indiens, parce que là c'est très péjoratif de dire indien, c'est devenu une insulte, quoi. Jamais on disait indio de mierda, on disait pas indien. Et les indigènes guarani, donc les peuples plus des terres basses, là, voilà. Donc ils ont organisé cette multitude de prises de terre. Et ils ont formé des communautés là, et après ça fait tache d'huile, parce que c'était une époque, l'an 2000, en Bolivie, tu avais beaucoup de mouvements sociaux très forts, à la fois donc des communautés paysannes indigènes des hautes terres, de l'altiplano, des luttes aussi des paysans indigènes cocaleros dans le Chaparré, d'où est issu l'actuel président Evo Morales, qui résistait contre la politique d'éradication de la coca, et à la fois aussi une organisation des indigènes de terres basses, qui étaient donc qui sont en Bolivie, ils sont une trentaine de peuples différents qui, dans le courant des années 80, s'organisent pour redemander des droits territoriaux, parce qu'eux étaient méconnus complètement dans la législation, ou alors ils devaient devenir des paysans et avoir une parcelle de paysans. Mais on ne reconnaît pas le droit communautaire indigène. Donc ils ont fait des marches importantes pour réclamer ce statut, enfin, on veut dire, de peuple indigène et le droit qu'on leur reconnaisse la possession, la propriété de territoires indigènes. C'est lié aussi à la Convention 169 de l'OIT, qui reconnaissait partout dans le monde le droit des peuples premiers, aborigènes, indigènes, des droits territoriaux. Il y a à l'époque une conjonction entre les luttes indigènes, avec un peu un retour aussi vers l'identité indigène, vers la fierté. Là, c'est la notion de dignité qui est forte aussi là-bas pour ça. De dire non, je ne suis pas un sous-prolétariat, je ne suis pas un marginal pauvre, je suis... un Guarani, un Winayek, un Chacobo, enfin je sais pas, toute la myriade de peuples, un Aymara, un Quechua, bon, même si après les limites entre des identités indigènes, c'est aussi un sujet, mais voilà, c'est cette dignité, le thème de la dignité important dans ces années-là. Cette histoire de la colonisation, les 500 ans en fait, c'était important aussi en Bolivie, la fête, soi-disant fête de 1992 de la race, quoi, comme on dit au Mexique, la fête de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Merci. Et de l'invention d'une nouvelle race par le métissage. Et dans toute l'Amérique latine à l'époque, tu as eu un contre-mouvement pour dire non, c'est pas la fête de la découverte de l'Amérique. Donc le MST est né à ce moment où il y a cette conjonction entre renouveau de lutte indigène, résistance des cocaleros, alors là, très forte, contre des interventions de l'armée américaine directe, c'était dans le Chaparré, c'était très, pour le coup, très violent, quoi, beaucoup de disparus, beaucoup de morts, Donc c'est cette conjonction de lutte à l'époque, ce renouveau vraiment des luttes. Après, un peu les théoriciens parlent du retour de la Bolivie plébéienne, du retour du communautaire justement, parce qu'on passait un peu d'un référentiel où l'avant-garde des mouvements sociaux en Bolivie, c'était les mineurs andins, donc avec une ligne trotskiste, une organisation assez monolithique, des marches impressionnantes, assez violentes, et bâtons de dynamite, l'avant-garde vraiment prolétarienne classique, quoi, 19e siècle. Et on passait de ce référentiel-là parce que la crise du secteur minier, la politique de privatisation, l'échec des gouvernements réformistes au retour de la démocratie au début des années 80, donc plein de facteurs, les premiers ajustements, enfin les ajustements structurels très violents qui ont mis dehors des dizaines de milliers de travailleurs. Donc le mouvement mineur et ouvrier en général était très affaibli, quoi, par le changement des structures économiques et l'arrivée du néolibéralisme assez hégémonique au niveau en tout cas de la représentation politique. Il n'y avait plus de parti de gauche qui pouvait faire front, et plus ce lien entre un mouvement social et le pouvoir national, quoi, plus cette influence qu'il avait eue auparavant. Et donc on passait donc de ce référentiel de lutte des classes classiques, un horizon, on va dire, plus communautaire, d'organisation, justement, de communautés de base dans les quartiers, dans les communautés indigènes. Donc voilà, les années 2000, c'était vraiment très créatif, très tourbillonnant, turbulent, et un pouvoir d'État, alors là c'est peut-être une différence par rapport au Mexique, très fragile, qui menace de s'effondrer, une crise généralisée politique et un pouvoir d'État fragile. Il y avait vraiment la capacité à l'époque de faire ployer un gouvernement et de prendre le pouvoir central, tout en étant organisé collectivement depuis les bases. Et toutes les années 2000, il y a eu ce balancement et cette constitution de mouvements sociaux. Et le MST, pour revenir à ça, mais il fait partie de cette période-là, donc comme un renouveau de lutte paysanne, un peu une avant-garde de lutte paysanne, où il remettait à l'ordre du jour l'action directe, l'action de fait, ils disent là-bas, le fait d'occuper vraiment des propriétés de façon conflictuelle. Et l'espoir d'organiser là une vraie communauté, pas seulement de se répartir des terres, mais d'organiser une communauté qui est son territoire, une organisation forte au niveau local, mais fédérée avec d'autres communautés qui partagent les mêmes principes organisationnels. On retrouve quelque chose du mandar obedeciendo des zapatistes en Bolivie, c'est-à-dire le fait de diriger en obéissant, c'est lié à ce système d'autogouvernement communal où il y a un système, les gens accèdent à des fonctions d'autorité, mais ils tournent en permanence, ils ne peuvent pas y rester très longtemps, ça va être réglementé de différentes façons selon les cas, mais le principe que ça tourne et le principe qu'il y a toujours cet aller-retour avec les bases et que les décisions se prennent au consensus dans les assemblées, que l'autorité ne prend pas de décision qu'engage les gens, elle les représente quand il faut, dans certaines circonstances, mais on descend aux bases, comme on dit, comme disent toujours les dirigeants boliviens, même ceux qui ne le font pas, on descend aux bases pour consulter et pour décider. Donc ça, c'est très fort là-bas aussi. Le MST, en tant que nouvelle communauté paysanne, formé par de jeunes, beaucoup des jeunes migrants qui étaient un peu en trajectoire de rupture un peu avec un passé indigène, qui étaient des gens qui avaient travaillé à droite à gauche, partis en ville, ils réinventent un peu ça. Et ils combinent avec un peu aussi ce qui se pratique dans des assentamientos du MST brésilien, ou en tout cas ce qu'ils en ont appris. Le t-shirt rouge, les casquettes, le drapeau, les chants, ils ont essayé un peu de remettre du renouveau dans le mouvement paysan bolivien qui était assez d'une certaine façon institutionnalisé. Ils ont repris un peu le slogan aussi du MST brésilien qui était, réforme agraire pour tous par en bas. Et ça rejoint aussi une forme d'anarchisme, le fait qu'on s'organise collectivement et qu'on se fédère ensuite entre organisations, entre communautés. Mais c'est pareil dans les quartiers, en fait. Il y a aussi ce côté, effectivement, territorial dans les quartiers, mais ce n'est pas des paysans. C'est pareil. Il y a cette idée, on s'organise du plus petit, donc un syndicat agraire de 40 personnes, 40 affiliés avec leur famille, et après on forme des fédérations, puis des confédérations, en fonction de ce qu'il y a à faire ensemble. Donc voilà, c'était pour resituer un peu la naissance du MST dans ce foisonnement politique à l'époque en Bolivie. Et par rapport au Mexique, donc il y a des points communs un peu, au fonctionnement de base. Et puis peut-être politiquement, ce fait que c'est un pays plus petit, qui a moins de gens, où l'État était toujours, le gouvernement central a toujours été faible en fait, et il peut s'effondrer quand il y a des forts mouvements. Et il l'a fait, par exemple, là, alors en Bolivie, je ne sais pas si c'est très connu en France, le mouvement de 2003 qu'on a appelé la guerre du gaz. Le gouvernement néolibéral de l'époque veut vendre des grandes réserves de gaz qui ont été détectées dans le sud de la Bolivie vers les États-Unis. Et c'est parti, comme toujours les grands mouvements, ça part d'événements un peu fortuits. Alors en Bolivie, la grande arme des paysans classiques, c'est le blocage de route. Comme il y a une route en Bolivie qui permet de connecter La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, c'est l'artère économique. Si tu bloques cette route, tu bloques toute l'économie. Donc souvent, les paysans le font régulièrement. Alors s'il y a vraiment un mouvement national, ils bloquent partout. Il y a des blocages partout, sur toute la route, tous les quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, tu as des blocages. Quand les militaires en débloquent un, ça se rebloque là, quand il y a une vraie coordination. Et Et en quelques jours, bah, il n'y a plus rien qui transite, quoi. Donc en 2003, il y a un nouveau blocage qui est lié à ce projet d'exportation de gaz. Et après, à La Paz, bien sûr, qui est la capitale, mais au-dessus de La Paz, tu as El Alto, c'est l'autre ville, banlieue de La Paz, la capitale politique. Alors La Paz, c'est dans un trou. Pour s'approvisionner, il faut passer par El Alto. El Alto, c'est que des paysans indigènes. En 1780, ces paysans indigènes, ils ont bloqué La Paz. Et depuis, les gens de La Paz, où sont les élites, ils ont peur de se faire rebloquer par les Indiens d'en haut. Là, ils ont fait pareil. Et donc, le président a fait aussi passer l'armée. Ça, c'était en octobre 2003. Et ils ont tiré partout, quoi. Ils ont tué 70 personnes en 3-4 jours. Tous les jours, les militaires arrivaient, tiraient. Les gens étaient regroupés comme un seul homme autour des chars et des camions qui devaient amener de l'essence pour approvisionner la ville de La Paz. Donc ça, c'était un mouvement qui était... Enfin, c'était la révolution, quoi. Parce que le gouvernement, finalement, il ne voulait pas céder. Tous les mineurs sont arrivés, les paysans du Chaparré, les paysans de partout. Ils descendaient dans la capitale depuis El Alto pour aller massacrer le gouvernement, quoi. Donc le gouvernement est parti en hélicoptère à l'aéroport d'El Alto, qui avait été sécurisé quand même par l'armée, et il est parti tout de suite aux États-Unis. Et là, c'était plus de pouvoir, vacances de pouvoir. Donc ça, c'est le mouvement de 2003. Et le MST, il a participé à cette montée comme ça, assez impressionnante, de cette organisation sociale, mouvement social, et de cet espoir de prendre le pouvoir d'État, quoi, comme une révolution à l'ancienne.
Du coup, c'est finalement un long travail de terrain qui a permis aux organisations de base en Bolivie d'accéder au pouvoir d'État, par le biais d'élections démocratiques, celles-là même qui ont conduit Evo Morales à la tête du gouvernement.
Vers 1995, lors d'un congrès de la centrale syndicale unique des travailleurs paysans de Bolivie, ils ont constitué l'IPSP, l'instrument politique pour la souveraineté des peuples, qui est devenu ensuite le MAS, le mouvement vers le socialisme, qui était une étiquette en fait, qu'ils ont pris pour pouvoir se présenter aux élections. Mais le vrai nom, c'est instrument politique pour la souveraineté des peuples, ou assemblée pour la souveraineté des peuples. Il y a eu plusieurs noms, et maintenant les paysans l'appellent l'instrument politique, ou l'instrument. C'est-à-dire le moyen pour prendre le pouvoir via les élections, mais à partir d'un parti à base paysanne. À l'époque, en tout cas, c'était ça. C'était vraiment des paysans qui se présentaient, des gens issus des bases, quoi. Et entre 1995 et 2002, puis 2005, ce parti gagne de plus en plus d'élections. Et il y a une expérience qui est intéressante de prise de pouvoir par le biais de l'élection démocratique représentative, quoi, mais par un parti qui est organisé de façon syndicale et communautaire. Donc, tu as une sorte de mixte là-bas. Entre les instruments de la démocratie représentative et un projet de prise de pouvoir paysanne indigène à base, on va dire, quand même communautaire. Donc, et cet espoir aussi, dans tout ce que j'ai décrit, de montée de mouvements sociaux et même capable de provoquer des insurrections, de prise de pouvoir de l'État central. C'est ce qui arrivait aussi donc en 2005, quand Evo Morales gagne les élections, où c'était une révolution quand même politique et un grand espoir dans le pays, parce que c'était l'achèvement de cette espérance de prise de pouvoir centrale par une fédération de mouvements sociaux, on va dire. Et le MST, donc voilà, il est né dans ça, il participe à ça, et grâce à ces prises de terre, qui n'ont pas été si nombreuses, mais tu as une dizaine d'assentamientos qui se sont créés et consolidés, dans tout l'Orient bolivien, surtout les départements de Santa Cruz et de Tarija, donc l'est de la Bolivie, amazonien et chaqueño, ils ont participé à cette remise sur le devant de la scène, à la fois de la question agraire, du fait que c'était la lutte contre le latifundio, le fait que après 30 ans de réforme agraire, tu avais encore une même structure agraire très inégalitaire entre beaucoup de gens qui ont peu de terres et peu de gens qui ont beaucoup de terres, c'était ça. C'était reproduit malgré une redistribution, parce qu'on avait redistribué entre beaucoup, pas trop de terres, pendant que d'autres accumulaient de plus en plus de terres, parce qu'il y avait toutes ces terres non occupées ou dont étaient refoulés les peuples indigènes. qui ont été appropriées par cet agrobusiness qui était en cours de constitution des années 60 actuellement et maintenant autour du soja et du grand élevage. Ce mouvement de prise de terre du MST, on renoue avec une tradition, donc déjà d'une manière, d'un moyen de lutte assez radical que les paysans pratiquaient beaucoup dans les années 30, 40, 50. On renoue avec une mémoire plus ancienne aussi du passé indigène, souvent idéalisée aussi à travers la notion de communauté, mais c'est une façon aussi de réinventer une nouvelle façon de s'organiser, quoi. Travailler ensemble, remettre au goût du jour des formes de coopération qui ne sont jamais perdues, mais les repolitiser. Donc il y avait cet espoir du mouvement des paysans sans terre, d'essaimer les assentamientos, organiser de façon communautaire. Là, il s'inspirait aussi pas mal du mouvement brésilien sur le mode de production, agroforestier, agro-organique, et donc voilà, s'organiser à la base, mais politiquement, du fait de cette fédération, reprendre aussi les politiques publiques à son compte, contrôler l'État et en faire un instrument. Et donc le MST voulait prendre à son compte, faire avec l'État central, comme les mineurs l'avaient fait dans les années 50 au moment de la Révolution, la politique agraire, et être ceux qui allaient organiser les bases de Santerre, décider en gros de façon organisée avec ces bases où ils allaient former leur nouvelle communauté, là où il y avait des terres à récupérer. C'était cet espoir qui s'est concrétisé pour eux avec la politique de Evo Morales de reconduction communautaire de la réforme agraire. En 2006, il y a une nouvelle loi de réforme agraire qui s'appelle comme ça, reconduction communautaire de la réforme agraire, qui a été élaborée, c'est important, avec la participation vraiment des bases, bon, ou des dirigeants liés à des bases, lors de taillères, de séminaires que faisait le gouvernement avec les représentants des mouvements sociaux, quoi. Donc ça, c'était assez intéressant comment cette loi a été élaborée. Et là, il y avait cet espoir, voilà, de relancer de façon communautaire la réforme agraire et de d'essaimer partout sur le territoire ces communautés paysannes en propriété collective. Donc c'était aussi leur mot d'ordre, c'est propriété collective de la terre, parce que dans l'histoire, la réforme agraire a distribué la plupart des terres en propriété individuelle.
D'un groupe zapatiste qui s'intitule Son Guadarrama Zapatistas. Alors au Mexique, contrairement au contexte bolivien, la confiance dans les institutions s'est complètement délitée à la suite des épisodes marquants de la commune de Oaxaca. La conviction profonde qu'il faut s'organiser depuis en bas sans ne plus rien attendre des gouvernants et de leurs pratiques mafieuses se répand continuellement dans la conscience populaire.
C'est important cette image dans l'imaginaire collectif au Mexique. Plus dans les villages, parce que toi, cet État corrompu, tu fais quelque chose avec l'État et quelque chose à côté. Tu t'es habitué à la vie comme ça. Et même les organisations sociales. Par exemple, la Finca Alemania, l'organisation là est CODEDI. Et maintenant, c'est pas tout autonome. Et donc, il y a cette université populaire qu'on a dit. Et c'est un terre qui a été récupérée, mais toutes les cochons, les poules, tout ça vient de l'État.
De programmes d'État, sous prétexte qu'ils vont pouvoir aider la pauvreté en mettant des projets durables, et qui au final, il n'y a aucun des projets qui fonctionne, puisqu'ils arrivent en apportant 300 poules, et puis ensuite ils repartent, et puis bon, tu repasses 2 mois après, il y a la moitié qui sont mortes, enfin, c'est pas du tout des choses qui sont pensées pour être durables, c'est encore de l'assistanat un peu plus maquillé, mais c'est de l'assistanat, quoi.
C'est à profiter que les choses que toi mais continuer à avancer pour l'autonomie.
Ouais, du coup, cette organisation dit quand même, non, bah,
on va recevoir,
on reçoit on quand prend même ce qu'il veut, ce truc-là, mais on va le gérer d'une autre façon, quoi. Et bon, bah, ils sont sur un chemin. Comme on disait au début, ils étaient seulement à demander, demander, demander à l'État. Maintenant, ils avancent vers l'autonomie. Ils pensent qu'il y a encore moyen de faire des compromis avec l'État, mais ils prennent une direction qui est complètement différente, quoi. Ça devient de plus en plus clair que c'est plus possible, il n'y a pas de négociation possible avec le gouvernement. Et que les choses doivent se construire d'en bas, quoi. Ça commence à être de plus en plus clair aussi quels sont les ennemis. Il y avait, je ne sais plus si c'était Zibechi ou quelqu'un qui a écrit un truc là-dessus en disant qu'un des plus gros responsables aussi de la destruction de l'organisation communautaire des villages indigènes, ça a été les politiques d'assistanat et les ONG. Et c'est vraiment des choses qu'on détruit ouais, même pas en 50 ans de ces politiques-là, ça fait des dégâts incroyables, quoi. Ça a commencé à habituer les paysans à arrêter de travailler au champ, à attendre que l'État nous verse l'argent. Et ça devient de plus en plus clair, hein. Nous, en faisant des ateliers de vidéo, y a des gamins enfin des gamins, il y a des jeunes de 14 ans, de 16 ans qui ils ont l'opportunité de s'exprimer avec la caméra et qu'ils le disent, les programmes du gouvernement sont en train de détruire nos communautés, quoi. Et ils l'ont clair déjà de cet âge-là. En 2006, il y a eu l'autre campagne zapatiste qui a fait une grande marche dans tout le Mexique. Une façon de dire, ouais, qu'il y a déjà tout un autre monde qui se construit aussi au Mexique, dans plein de petites expériences, petites ou grosses, partout dans le pays. Et qu'il y a un sens, si on arrive à connecter un peu tout ça, on se rend
Ça
compte
prend du sens.
qu'il y a des fois des horizons qui sont partagés et qu'il y a une construction qui peut être plus grande que seulement quelque chose qui se limite à un peuple indigène. Et ça arrive aussi en même temps que la 6e déclaration de la jungle lacandonienne, où ils disent le manifeste politique, quelque chose qui est écrit des villages, qui nous sommes, d'où est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'on voit le monde, qu'est-ce qu'on rêve, où est-ce qu'on va et comment est-ce qu'on va le faire. Et ils répondent à cette question avec des paroles très simples, et c'est de dire la construction, elle est d'en bas, il n'y a pas de négociation possible. On ne va pas aller demander à l'État, au gouvernement, les choses que nous, d'en bas, on peut produire, on peut faire nous-mêmes. Il faut juste qu'on s'organise et qu'on arrête d'attendre d'en haut la solution, quoi. Et donc ça, c'est une déclaration pour dire que le zapatisme, c'est pas seulement quelque chose de Chiapas, qui est international, quoi, qui est à partir du moment où on commence à se regarder entre nous et à se dire comment est-ce qu'on s'organise pour construire les choses, d'où est-ce qu'on est depuis nos territoires, que ça soit depuis la ville, que ça soit depuis la campagne, que ça soit depuis les terres récupérées, d'où est-ce qu'on vient. Et s'organiser, quoi. Au Mexique, ça devient de plus en plus évident que c'est le seul chemin possible. Ceux qui prennent d'autres chemins se rencontrent avec la corruption, avec des dialogues avec l'État qui sont impossibles. Même si l'horizon, c'est l'autonomie, la fin justifie les moyens, non? De dire si la fin, c'est l'autonomie, les moyens, c'est aussi l'autonomie. L'autonomie, c'est maintenant, et on l'a construit avec la révolution quotidienne, avec des petites choses. En changeant notre façon de vivre de tous les jours, en s'organisant depuis en bas avec nos voisins, avec nos familles, avec nos quartiers, qu'on va construire une autonomie et qu'il faut la vivre maintenant. On ne va pas se priver en attendant qu'on puisse vivre l'autonomie un moment. C'est maintenant qu'il faut vivre ce monde-là.
Et ça me fait penser un peu par rapport à ce que je racontais du mouvement des sans terre, leur désir, puis leur illusion pour le coup peut-être du mouvement social bolivien même en général, à partir du bas, de conquérir le haut et d'en faire un instrument de son propre programme. Alors pas un programme politique écrit noir sur blanc, mais de sa pratique, de ses valeurs, etc. Là en Bolivie, il y a eu quand même des désillusions. Il s'est avéré quand même que le gouvernement de Evo Morales, qui se dénommait gouvernement des mouvements sociaux, c'est-à-dire dans l'idée c'était c'est le gouvernement, c'est les mouvements sociaux qui gouvernent le pays, c'était plutôt devenu un gouvernement qui gouverne les mouvements sociaux. Parce que depuis là-haut, depuis l'État, même si lui il est toujours lié d'une certaine façon à ses bases paysannes, il est toujours réélu président des 6 fédérations des tropiques de Cochabamba, les fédérations de Cocaleros. Il est toujours dirigeant paysan tout en étant président de la République. Mais il est quand même... enfin, en tout cas, ce mouvement, le MAS, l'instrument politique, est rentré dans une logique, on va dire, politicienne et étatique, quoi. Et c'est quand même un gouvernement... donc redistributif, donc centralisateur, qui impose des façons de voir aux organisations sociales qui étaient censées être ses bases, et qui ont été et qui sont toujours en grande partie ses bases électorales. Mais ça c'est pas... Il n'y a pas eu... Donc entre les moments insurrectionnels et puis ensuite la réappropriation du système électoral libéral, depuis une démocratie communautaire de base. Après, il y a eu constitution d'un pouvoir quand même partisan autour du MAS, qui maintenant reçoit des gens qui appartenaient à d'autres partis politiques avant. Donc les dirigeants paysans du MAS vont toujours dire « Mais non, c'est nous qui allons quand même diriger, et puis on va inclure ces gens-là que s'ils ont vraiment abjuré leur participation à des gouvernements néolibéraux. » Mais il y a les gens des pires partis qui rentrent dans le MAS parce qu'ils ont besoin de cadres, parce qu'il faut faire des politiques publiques, donc il faut décrocher des financements, il faut parler à la Banque mondiale, il faut... La logique étatique, quoi, s'impose en fait à la logique du mouvement social, si on veut, et à ce programme de par en bas et de démocratie véritable par en bas, quoi. Donc il y a eu plusieurs conflits entre le gouvernement et des communautés indigènes qui l'ont montré. Donc l'un dont on a un peu entendu parler peut-être par ici, c'était le projet du gouvernement de faire une route dans un grand parc naturel qui est aussi une communauté indigène, de plusieurs peuples indigènes, qui s'appelle le Tipnis. Ça, c'est le territoire de l'Isiboro-Sécouré, ces deux fleuves dans le piémont amazonien, une des zones les plus riches en biodiversité du monde. Et pour faire aboutir à un projet ancien de tous les gouvernements boliviens depuis l'indépendance, qui était de faire une route qui traverse ce « no man's land » entre guillemets. En fait, c'est une zone de refuge d'indigènes qui ont été refoulés de partout, se sont retrouvés là et ont fondé ces communautés interethniques. C'est intéressant, ce parc. Et donc, pour exaucer ce vieux vœu des gouvernements centraux de faire une route qui connecte l'intérieur andin directement à l'Amazonie, entre Cochabamba et Trinidad au Béni, il a réactualisé ce vieux projet qui fait partie aussi de projets d'infrastructure entre l'Atlantique et le Pacifique, beaucoup financé par la Banque du Développement brésilienne aussi, pour que toutes les marchandises brésiliennes partent aussi via le Pacifique et que ça rentre aussi depuis l'Asie de l'autre côté. Enfin, voilà. Et il y a une résistance des gens forte localement. Ils ont fait une grosse marche. Ils ont été réprimés par la police militaire. Le gouvernement dit c'est pas lui, il y a eu une rupture dans la chaîne d'ordre. Et donc voilà, c'est consolidé en fait une nouvelle élite politique autour du MAS et de Evo Morales, qui a imposé une logique étatique par en haut et qui est en phase avec la mondialisation économique capitaliste, même si c'est peut-être plus du néolibéralisme dans la mesure où l'État a repris un rôle central. Il a remis au pas même les patrons, quoi, en les réprimant, parce qu'il y a eu aussi un gros mouvement patronal, enfin dirigé par les patrons, qui visait à faire chuter le gouvernement de Morales. Il a réussi à réprimer un peu. Il a eu surtout l'appui des paysans pour empêcher les États orientaux en fait de faire une sorte de sécession sous le gouvernement en fait des patrons on peut dire. Et ensuite il a acheté on va dire les patrons, il les a divisés. Et maintenant il va enfin il avantage en fait les intérêts capitalistes des gros agro-industriels de l'Orient, les gros producteurs de soja. Et donc, ce que je parlais de la reconduction communautaire de la réforme agraire, bah, pour le moment, c'est lettre morte. Donc, et voilà, et c'est encore quelque chose à refaire à reprendre depuis les bases, finalement, puisque la logique étatique, elle est partie dans autre chose.
Voilà donc comment se termine cet entretien croisé sur la reconstruction d'une autonomie indigène en Bolivie et au Mexique. Un grand merci à Thomas, Gunzo et Guadalupe pour leur participation passionnée. Vous pouvez réécouter leur exposé en téléchargeant sur le blog de l'émission http://blogs.radiocanu.org/lutte paysanne. À dans 2 semaines dans Les paysannes et les paysans dans la lutte des classes.